Bonsoir et bienvenue dans le 7e épisode de La Nuit des Divas.
La Nuit des Divas, un lundi sur 4 à 22h30, sur Radio Campus Paris. La Nuit des Divas sur Radio Campus Paris.
Bienvenue dans La Nuit des Divas, l'émission où vous présente la nouvelle génération des grandes chanteuses ou divas de pays arabes à partir des années 80. Moi c'est Émilie, étudiante en lettres et arts et passionnée de musique arabe avec un S en pluriel. Habituellement, on vous parle d'une artiste en profondeur. On a pu consacrer nos épisodes précédents à Elisa, Ossolo, Shirin Abdelwahab et Magda ou Majid El Roumi. Aujourd'hui, on se retrouve pour notre troisième épisode spécial puisque je suis accompagnée par Vintage Arab qui nous fait l'honneur de sa présence. Bon, du coup, je te laisse te présenter en quelques mots pour ceux qui ne te connaîtraient pas.
Bah, bonsoir, je suis ravie d'être parmi vous ce soir. Alors, me présenter en quelques mots. Donc,
quelques phrases, si tu préfères.
Alors, je m'appelle Ajer Benbouaker, je suis la créatrice du podcast Vintage Arab et je suis aussi en parallèle documentariste chez France Culture. Je travaille en fait depuis quelques années déjà en tant que chercheuse indépendante sur les musiques arabes et sur un autre volet qui est l'histoire culturelle de l'immigration maghrébine en France, souvent par le prisme des musiques déjà. Donc voilà, je collabore avec des médias ou des institutions par moment, notamment par exemple l'Institut du Monde Arabe dans le cadre d'une exposition qui a eu lieu il y a 2 ans déjà.
Ouais, c'était 2021, ouais.
Qui s'appelait donc Diva, Dunkelfoum à Dalida, qui était consacrée à la fois 4 grandes chanteuses arabes et aussi un peu à l'émergence de la scène artistique en Égypte particulièrement, et particulièrement de son émergence au sein de la ville du Caire. Donc voilà pour la présentation succincte.
Eh bien c'est parfait, on est totalement dans le thème de l'émission du coup. Je pense qu'on va attaquer un peu par la base, donc... C'est quoi ton intérêt pour les chanteuses qui émergent à partir des années 80 et dont on parle ici, du coup ?
C'est intéressant comme question, puisque pour le coup, dans Vintage Arab, effectivement, moi, ce n'est pas forcément des sujets que j'ai encore abordés. À la base, quand j'ai lancé le podcast, j'avais une envie de parler des artistes ou des mouvements artistiques ou des genres musicaux ou même d'une chanson. De manière assez, on va dire, scientifique, mais dans le sens de vulgarisation scientifique, c'est-à-dire apporter vraiment un peu un regard socio-historique sur la question, tout en étant assez grand public. Et très rapidement, moi, mes centres d'intérêt dans la recherche, mais aussi dans l'écoute, c'est plutôt des chanteuses et des chanteurs, pour le coup, d'avant les années 80. Néanmoins, même si dans Vintage Arab, c'est plutôt la ligne éditoriale, j'ai pu d'ailleurs, enfin, quand je dis ça, mais j'ai quand même pu aborder des chanteurs, pour le coup, plutôt des hommes qui ont une carrière qui plutôt s'étale dans les années 80, 70-80, Ziad Rahbani, notamment.
Ok, ah oui.
Qui, pour le coup, ne colle pas, disons, à la ligne édito. Enfin, non, si, ça colle dans la ligne édito, mais c'est pas quelqu'un qui, on va dire, fait partie de l'âge d'or, comme on dit, avec plein de guillemets pour l'expression. Alors, le rapport que j'ai avec les chanteuses des années 80 et plus tard des années 90-2000, c'est un rapport d'écoute en tant qu'amatrice et d'avoir aussi grandi avec ces musiques-là au même titre que les grandes voix qu'on connaît peut-être mieux en France. En tout cas, pour le cas d'Oumkelfoum ou de Fayrouz, on les connaît mieux, ça c'est sûr. Mais voilà, des Shirin, des Asala ou des Majd al-Roumi, bah ça fait partie de ma vie aussi en tant qu'auditrice parce que j'ai grandi avec elle au même titre que les autres. Donc j'ai un rapport peut-être moins d'analyse, on va dire, en tant que chercheuse, mais affectif très fort avec ces chanteuses parce que leurs chansons ont pu accompagner des moments de ma vie, des vacances, des ruptures, etc. etc.
Ouais, donc on est plus dans un truc affectif que dans de la transmission pure parce qu'en vrai, à l'époque d'Oum Kalsoum, aucune d'entre nous ne l'a connue. Donc on est plus... c'est notre ère, quoi. On est... Ouais, Mais je pense que ce qui est intéressant, c'est... Moi, c'est une question que je me pose souvent dans le cadre de cette émission. À chaque fois, je parle d'une de ces artistes. C'est est-ce qu'on peut parler vraiment d'héritière, en fait, de Ommu Kulthum, de Werda, de Fairuz, de toutes ces femmes, en fait, qui ont un peu posé les bases de l'imaginaire de ce qu'on a, de ce que c'est une diva arabe.
Moi, je pense qu'on peut parler d'héritière à partir du moment où il y a une continuité. Déjà, ce sont des artistes féminines qui interprètent des chansons en arabe, écoutées de manière très très large. En ça, elles s'inscrivent dans la continuité directe de leurs prédécesseuses. Après, je pense qu'il y a une vraie difficulté sur la question de l'héritage, en fait, de qui peut se permettre de se revendiquer comme étant une diva ou comme étant l'héritière d'Umm Kulthum. J'ai l'impression qu'en fait, c'est pas réellement permis. On a tellement mythifié les chanteuses. Je dirais pas, en plus, c'est pas la première génération, mais en tout cas de la génération d'Umm Kulthum de cette époque, on va dire, s'étendant des années 30 aux années. On va dire jusqu'à la début 70, on va dire, pour être large. C'est comme s'il y avait une impossibilité de l'héritage par le mythe qu'elles ont pu susciter, que ces artistes-là, notamment Umm Kulthum, a pu susciter. C'est intéressant que tu poses la question, parce que moi, ça me rappelle le grand débat au moment où Umm Kulthum devient âgée, en fait. Mm-hmm. Et c'est qui va être l'héritière. Ouais. Et donc, les gens se... Enfin, les femmes se positionnent, les artistes de l'époque, et en même temps, bon, il n'y en a aucune qu'on a vraiment considérée comme étant son héritière directe. Moi, je pense au fait que, par exemple, une Werda Jazairi, donc une grande chanteuse algérienne, mais qui a fait toute sa carrière en Égypte, quand elle revient après 10 ans d'absence de scène, 10 ans d'absence parce qu'elle s'est mariée avec un général algérien et qu'elle n'a pas chanté pendant 10 ans, donc en gros, Werda commence sa carrière, on va dire officiellement en Égypte, connaît des grands succès, se marie, l'Algérie accédant à son indépendance, etc. Elle se marie avec un général, elle ne chante pas pendant 10 ans, elle disparaît de la scène. Quand elle revient, elle a déjà en tête que c'est le moment de se positionner comme l'héritière. Et en fait, ça va se matérialiser comment ? C'est-à-dire comment on peut prouver qu'on a une grande voix, qu'on est une grande chanteuse. Ça consiste par exemple à faire des, sans rentrer trop dans la technique, des ha-hat ou de tenir des mawal très longtemps.
Ouais, c'est ça, ouais.
Et donc de montrer ses capacités, ses capacités en tant que chanteuse, en termes de voix, en termes de modulation de la voix, qui est quelque chose de très important dans la musique arabe. Donc c'est en ça qu'il y avait déjà un peu ces questions d'héritage pour celles qu'on considère encore aujourd'hui comme, aujourd'hui quand même comme des divas. Moi, je pense que pour celle des années 80, on se positionne sur un moment où si la musique a changé le format musical de ce qu'on pourrait appeler de manière un peu schématique, mais réelle quand même, la variété égyptienne, change. On est sur des formats plus courts, on est sur des formats où aussi on fait peut-être moins appel à de la poésie, par exemple, classique.
Ouais.
Et je pense qu'une Werda, elle était déjà, quand elle essayait de prouver qu'elle était l'héritière d'Umm Kulthum, en train d'essayer de se défaire un peu des stigmates portés sur les personnes ou les chanteuses qui ont apporté des styles un peu différents, des chansons plus courtes, des chansons plus empreintes de dialecte en fait, que de langue classique. Et voilà, donc ça a commencé déjà à changer.
Ouais.
En fait, dans les années 70, tout ça pour dire ça. Et donc, dans les années 80, on est dans le vrai changement, puisque on a des chanteuses qui doivent faire avec le fait que tout le monde a mythifié une période. Ouais. Donc c'est pas évident pour elles, et en même temps elles doivent faire avec leur époque, c'est-à-dire que le goût des auditeurs change aussi, et c'est pour ça qu'à la fois elles sont appréciées et en même temps elles subissent, si tu veux, un peu le stigmate de toute façon ça sera jamais aussi bien qu'avant.
En même temps la barre elle a été placée tellement haut. En fait, ça fait partie du fait qu'on les ait mystifiés, comme tu dis. Mais quand tu regardes des prestations en live où Umm Kulthum, elle peut te chanter pendant plus d'une heure sans s'arrêter et que tu vois littéralement les gens en extase et en transe, je comprends qu'en tant que chanteuse, créatrice qui émerge dans la scène musicale, tu te poses des barrières un peu toi-même, quoi. C'est quelque chose que j'entends, mais après... Je pense qu'un des critères selon moi, les plus importants quant à la caractérisation d'une diva, c'est le live, en fait. Tu vois toute la différence entre une Nancy Rogram qui apparaît à partir des années 80-90, qui est une vedette de la pop, pour le coup, qui n'est pas une diva, je pense, et une Hustle, justement, qui, elle, ça fait partie des artistes où, moi, je trouve qu'on entend le plus cette influence de la génération un peu classique, entre guillemets, on va dire. Parce que justement, elle a cette capacité, elle a les mêmes mimiques en fait en live, elle a la gestuelle qu'on retrouvait chez des Word, parce qu'en vrai, Word, c'est des choses qu'elle transmettait aussi, tu vois, quand tu regardes des lives, des clips et tout. Et en solo, pour le coup, je trouve qu'elle a vraiment ce talent-là, et elle s'inscrit aussi dans des genres traditionnels arabes comme le mawel et le torb. Elle a chanté beaucoup de torb et elle a beaucoup repris Om Kalsoum, justement. Ses deux premiers albums, c'est vraiment, c'est pratiquement que du torb. Et je pense que ce serait intéressant d'écouter son morceau, je crois que c'est Sawaha Galbi. Sawaha Albi.
Thank you.
On vient d'écouter Sawa Galbi de Osolo. Donc, pour parler un peu de la comparaison entre la génération qu'on considère comme étant classique des grandes chanteuses arabes et la génération qui émerge dans les années 80. Et avec Osolo et ce morceau, je trouve qu'on retrouve justement, c'est une prestation en live et c'est important parce que dans sa manière d'improviser en fait. Avec sa voix, et je pense que l'improvisation, ça fait partie des caractéristiques les plus importantes d'une diva d'un pays arabe, et aussi le Amon qu'elle répète, ça c'est à la fois, ça s'inscrit dans une tradition poétique et aussi d'improvisation musicale qui fait que bah, c'est une des raisons de plus pour lesquelles je pense que Osolo, c'est vraiment... une héritière de cette génération-là, quoi.
Ah, moi, je suis totalement d'accord pour Assa, là. Et puis je pense que, comme je le disais à un moment hors micro, en fait, il y a un truc aussi par rapport à cette histoire de qui hérite, qui est une diva, qui ne l'est pas. C'est que la concurrence, elle est un peu... elle est rude. Pas tellement parce que... il y a beaucoup de talents actuels. Enfin, dans les années 80, il y avait beaucoup de talents actuels, mais il y avait aussi surtout le fantôme et l'écoute par le public de manière très très régulière des artistes, des fameuses divas, soit qui étaient déjà décédées, soit qui avaient arrêté leur carrière. Et donc, comme la consommation musicale des publics arabes garde bien en tête et dans leur écoute régulière ces chanteuses, ça fait que la concurrence elle est d'autant plus dure et pour Assa là je suis totalement d'accord parce que à une formation classique hein, dans le sens où elle connaît bien ces genres musicaux classiques les Mawawil et d'autres formes de musique d'ailleurs elle connaît aussi bien le patrimoine musical propre à l'Égypte que celui propre à la Syrie dont elle est originaire et ça c'est un truc aussi qui était assez présent dans les années 80 qu'on a peut-être un peu perdu ou qui est moins important qu'avant, c'est que dans les années 80 il y avait quand même encore une, comme tu le dis, une importance accordée au live et à la scène déjà parce que c'est un des aspects de la carrière d'un point de vue financier qui rémunère le plus plus on fait de scènes, plus on est payé pour faire des scènes, mieux on gagne. Pendant longtemps, la musique arabe a aussi enregistré des lives plutôt que d'enregistrer des versions studio. D'ailleurs, c'était même ce qui était plutôt privilégié. Et donc, il y avait une espèce de prérequis de savoir bien chanter en live, quoi. C'est vrai que ça se modifie hein, à partir des années 70. Mais dans les années 80, pour moi, ça perdure ce côté de devoir en fait faire ses preuves en live, quand bien même on n'achète plus des cassettes avec des lives, parce que enfin on passe en d'autres formats aussi, hein, qui est le format cassette. Et c'est beaucoup plus, c'était beaucoup plus rare dans les années 90, je pense 80-90, en tout cas ce que je connais moi, 90-2000, d'acheter des cassettes avec des lives que de se retrouver à acheter dans les années 50-60 des vinyles avec des lives.
Ouais.
Donc il y a aussi ça qui leur est reproché, mais en même temps c'est plus la structuration du marché du disque, leur propre choix de faire du live. Et c'est aussi un médium comme le clip en fait, le clip vidéo, c'est une autre manière de diffuser. En fait il y a un changement dans la façon dont on diffuse de la musique qui font que les critères ne sont plus exactement les mêmes. Après, je reste d'accord avec toi. Pour moi, une diva, en tout cas à mon sens, c'est quelqu'un qui... C'est une chanteuse à voix, déjà.
Ouais.
C'est censé être une chanteuse à voix. Je pense que ça, c'est quelque chose de communément admis dans toutes les cultures, que la diva, elle est quand même censée avoir du coffre, comme on dit. Et je pense qu'il y a aussi un autre truc qui peut-être ça joue. Alors ça, c'est un truc que je suis en train d'y réfléchir en parlant, mais est-ce que c'est pas aussi un certain imaginaire du glamour, un certain imaginaire de la classe, en fait, qu'on associe à ces femmes ? Et peut-être qu'on reproche pas tant aux femmes des années 80-90 de pas être assez classe, mais à l'époque de pas l'être assez. Donc les premières à qui on jette des pierres, c'est les femmes. Et pour peut-être finir sur cette question d'héritière, pour moi, où il y a aussi un truc assez frappant, c'est qu'on fait un peu des procès où peut-être que le jugement est plus dur. Enfin, pour moi, le jugement il est plus dur vis-à-vis des femmes. Est-ce que c'est une diva ? Est-ce que c'est une vraie héritière ? Qu'on pose moins aux chanteurs en fait. On fait beaucoup moins le procès à Amr Diab d'être de pas être l'héritier dans Abdel Halim Hafez.
Ah mais totalement.
Donc c'est vraiment aussi comment, comme dans toutes les cultures, mais en tout cas c'est bien présent dans l'industrie du disque arabe, comment on crée de la concurrence féminine.
Oui, non mais
même avec des fantômes.
Mais puis même, il y a plein d'anecdotes, tu vois, de... C'était pas mal expliqué aussi dans l'expo à Lima, sur la concurrence féminine, justement, beaucoup avec Om Kalsum et Esmahen. Mais oui, totalement. Après, c'est toujours comme ça dans l'industrie musicale. Je pense que c'est toujours les femmes qui prendront le plus cher. Mais je pense que c'est aussi parce que, y a, contrairement aux chanteurs masculins, il y a, oui, l'esthétique qui est créée autour. Tu vois, on a exposé les tenues de ces chanteuses, actrices, danseuses pour certaines, dans cette exposition dont on parle, pour cette raison-là. C'est qu'il y a vraiment une esthétique, une posture qui vient avec. Et pour le coup, ça, j'ai l'impression que ça perdure aussi. J'ai l'impression que ça fait encore partie des critères. Quand je regarde des lives de festivals en 2020, 2022 même, elle porte toujours des robes hyper impressionnantes, hyper glamour, justement. Donc ça, j'ai pas l'impression que ça se perd, pour le coup, au contraire. Enfin, je sais pas si c'est une bonne chose ou non, mais...
Bah, moi, je pense qu'effectivement, ça perdure de manière différente, mais ça perdure. Et de toute façon, la donnée physique, on va dire, a toujours été importante. Alors, on peut toujours trouver des exceptions de femmes qui rentraient pas dans les canons physiques attendus. Om Kalsum étant, par ailleurs, l'exemple même de celle qui ne rentrait pas dans le canon... esthétique de son époque, puisque quand on regarde les autres chanteuses, les autres actrices, on était quand même sur du... des femmes plus minces, déjà, d'une part, enfin, plus en 8, comme on dit. On était vraiment sur d'autres critères. Il y a toujours, et aujourd'hui encore, il y a quand même une exigence de beauté, enfin, d'un standard de beauté à atteindre quand on est une diva ou pas, d'ailleurs, et peut-être encore plus quand on est une artiste de pop,
absolument.
À atteindre. Ouais. Donc oui, pour moi, ça s'accompagne au-delà du physique, même des codes de la féminité, les robes dont tu parles, etc. Ça, c'est pas quelque chose duquel on est sorti. Et ça, c'est quelque chose qui fait partie effectivement d'autres cultures, mais en Égypte, en l'occurrence, les comédies musicales. Ouais. Qui était le vecteur principal de la musique, de la variété égyptienne pendant longtemps. L'imaginaire, il repose autant sur la chanson que sur la beauté et la façon dont sont habillés les acteurs, et les actrices et les chanteuses dans ces films. Donc c'est un imaginaire qui se perpétue, évidemment.
Ouais, et on a des figures justement qui représentent parfaitement ce lien entre musique et cinéma et la manière dont on va regarder quelque chose, en fait, écouter quelque chose en le regardant plutôt, avec des figures comme Saïd Hosni, qui à la fois représente parfaitement les tendances vestimentaires de son époque et représente aussi parfaitement les comédies musicales. Je pense que c'est vraiment une des actrices chanteuses qui le représente le mieux. Et on peut écouter tout de suite un de ses morceaux, c'est Yawed Yat Il, qui est issu du film
Khali Balek Menzouz.
Khali Balek Menzouz, exactement.
Yawed Yat Il. يا مشيبني يا ده انا بالي
طويل وانت انت عاجبني بس يا ابني بلاش تتعبني عشان عمرك ما هتغلبني يا 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 ودي يا تقيل
يا 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 ودي يا تقيل يا 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 شايفها يا دي بلاها طويل وانت عاجبها
يا 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 يا
يا يا ودي يا تقيل
ولا يعاني ولا يعاني ولا يعاني قلبي يقول ياني 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 وده قلبه ولا يعاني ولا يعاني ولا يعاني عنده برد أعصاب اسم الله ولا جرح بريطاني عنده برد أعصاب اسم الله ولا جرح بريطاني عنده برد أعصاب اسم الله ولا جرح بريطاني ويبص ازاي كده كده هو ويمشي ازاي كده كده هو والضحكة ازاي كده هو ويقف ويقول انا هو انا هو تمثل رمسيس التاني يا 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 ودي يا تقيل
يا 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 ودي يا تقيل يا 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 مشايفها يا دي بلها طويل وانت وانت عاجبها
يا 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 يا
يا يا ودي يا تقيل
ما تقولش امين شرطه اسم الله ولا دبلوماسي ما تقولش امين شرطه اسم الله ولا دبلوماسي وايديه ازاي اهو كده كده اهو ودقنه ازاي اهو كده كده اهو وحواجبه ازاي كده هو ويقف ويقول انا هو انا هو والكون مش قد مقاسي يا 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 ودي يا تقيل
يا 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 ودي يا تقيل يا 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 مشايفها يا دي بلاها طويل وانت وانت عاجبها
يا 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 يا
يا يا ودي يا تقيل
الرجل الغامض بسلامته متخفي بنضاره
الرجل الغامض بسلامته متخفي بنضارة ويحيي ازاي اهو كده كده اهو وينادي ازاي اهو كده كده اهو ويعادي ازاي كده اهو ويقف ويقول انا اهو انا اهو اطول واحد في الحارة يا 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 ودي يا تقيل
يا 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 ودي يا تقيل يا 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 مشيبة يا دي بلها طويل وانت وانت عاجبها
يا 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 ودي يا تقيل يا 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 مشيبني يا ده انا بالي طويل وانت انت عاجبني بس يا ابني بلاش تتعبني عشان عمرك ما هتغلبني يا 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 ودي يا تقيل
La nuit des divas, un lundi sur 4 à 22h30 sur Radio Campus Paris.
On vient d'écouter Yawed Yat Il de Souad Hosni, donc issu du film Khali Balak Men Zouzou, et je te laisse rebondir sur ça.
Déjà, j'adore Khali Balak Men Zouzou, donc c'est vraiment un des films, justement, un des films. Alors moi, j'ai beaucoup regardé des comédies musicales des années 40, 50, 60, mais du coup, Khali Balak Men Zouzou, c'est la période 70 plutôt. Et bon, ce film m'a beaucoup marqué enfant. Et ouais, ça continue d'être un de mes préférés, puisque je vous conseille, si vous pouvez le regarder, de le regarder. Mais c'est aussi.
Il est sur YouTube en plus.
Il est sur YouTube. Bon, il est en arabe.
Mais ah,
je pense que du coup, c'est que. Peut-être même. Mais bon, en tout cas, il est très beau esthétiquement. Et puis. Et puis c'est aussi pour moi un film un peu féministe. En tout cas, la figure jouée par Souad Hosni, c'est celle d'une jeune étudiante fille qui veut faire ce qu'elle veut en fait. Et j'ai beaucoup d'affection pour Souad Hosni en tant qu'actrice, parce que c'est quand même principalement une actrice plus qu'une chanteuse. Elle a chanté dans des films, mais elle a finalement assez peu, capitalisé sur la musique dans sa carrière, puisqu'elle est quand même vraiment actrice, plutôt. Même si, en l'occurrence, comme dans Khali Balak Men Zouzou, où elle a chanté, mais c'est aussi parce qu'à cette époque, en Égypte, on demandait encore aux actrices d'être très polyvalentes, en fait. Savoir danser, savoir chanter, savoir jouer la comédie. Donc voilà. et pour moi, c'est intéressant. Cette chanson est intéressante. Et Souad Hosni est intéressante dans ce qu'elle représente, parce que déjà, c'est l'icône de l'ère nassérienne. Donc on passe à un autre modèle de film. Donc notamment des films beaucoup plus intello entre guillemets, enfin dans le sens beaucoup plus sur les problèmes sociaux de l'Égypte.
Ok.
Ça c'est vraiment quelque chose qui arrive avec l'Égypte nassérienne et qui avait déjà commencé avant Khali Balak Men Zouzou, qui est tourné en couleur, mais on trouve déjà des films de ce type en noir et blanc. Et aussi avec une volonté de rupture avec l'Égypte d'avant, celle du roi Farouk, donc l'Égypte des comédies musicales. Donc l'Égypte à partir de Nasser produit moins de comédies musicales. C'est aussi une des raisons qui explique qu'il y a eu moins de films musicaux, parce que les choix du ministère de la culture égyptien dans le financement des films, et tout était nationalisé, hein, le contexte nassérien c'était la nationalisation, c'était de pas produire de moins produire ce type de film très rattaché au passé, et aussi de plutôt aborder des problématiques de société. Et dans cette Égypte nassérienne, il y a des icônes qui émergent. Il y a des chanteurs nouveaux, et c'est des Abdel Halim, ouais, pour les hommes. C'est vraiment le moment où sa carrière décolle. Et c'est Souad Hosni, notamment pour les femmes. Bien sûr, il y a des gens qui perdurent, donc le film continue d'être le symbole de l'Égypte. Mais c'est aussi ce qu'elle représente. Et elle représente pour moi aussi l'événement de la Lolita, en fait, de l'idée de la Lolita.
Totalement.
dans la culture cinématographique arabe et musicale arabe. Et c'est aussi pour ça que une Souad Hosni chante et a des succès musicaux sans qu'on lui exige d'avoir une voix incroyable, parce que Souad Hosni n'est pas une chanteuse à voix, en fait. Elle a pas je pense qu'en live ça devait pas, entre guillemets, être hyper qualitatif, dans le sens où c'est plutôt une chanteuse de studio par ailleurs. Et donc c'est parce qu'elle représente
la première figure de la Lolita.
Ouais.
Et ça, c'est une figure qui va continuer à perdurer et prendre en plus en plus d'ampleur, notamment dans les années 90. Alors, on n'est pas du tout sur les mêmes critères que Suat Hosni, mais c'est quand même elle qui, pour moi, amène ça dans la culture musicale et cinématographique arabe.
Mm. Mais c'est, ouais, c'est un rôle et une esthétique qu'on retrouve vachement après. J'en avais longuement parlé dans l'épisode consacré à Shirin Abdelwahab, donc je ne reviendrai pas pendant hyper longtemps sur ça. Mais donc, on se le disait hors micro, mais donc cette relation très, très forte entre le cinéma et la musique, c'est quelque chose qui aujourd'hui a totalement disparu, puisque comme tu dis, ça a commencé déjà à disparaître dès les années 70. Et aujourd'hui, on ne produit plus de comédies musicales, ça ne fait plus partie de ce qu'on consomme le plus, mais l'exception, je crois que c'était en 2016 que c'est sorti, donc série de Ramadan, qui fait partie de cette culture-là, de la série de Shirin Abdelwahab qui s'appelle Tori, donc Mon Chemin, qui est une série que je trouve en fait hyper féministe, parce que c'est une femme qui cherche à se faire sa place dans le monde de la musique, alors que sa famille n'est pas pour, son mari non plus, etc. Et elle reprend cette esthétique vachement de la Lolita quand elle reprend la chanson, en plus de Shadia. Donc il y a une forme d'hommage qui est faite. Et du coup, ça fait partie des seules pépites récentes dans ce style très musique-ciné. Mais sinon, donc, un des trucs sur lesquels on peut revenir, parce que je pense que c'est intéressant de creuser sur ça, c'est toujours dans le rapport de ce que c'est censé être une diva arabe, etc. C'est les relations en fait, entretenues, et ce depuis très longtemps, entre les chanteurs, musiciens et poètes. Donc ça, c'est quelque chose qui remonte même avant Oum Kalsoum. C'est propre aux multiples cultures arabes, ce rapport à la poésie en fait, hyper important. Et ça s'est beaucoup retranscrit en musique. Donc Oum Kalsoum, c'était évident, tous ces textes étaient écrits par des grands poètes. Mais c'est aussi quelque chose qu'on retrouve chez la nouvelle génération, en fait, surtout à leur début. Ça, c'est une question, je pense, sur laquelle on reviendra après. Mais à leur début, c'est notamment Magdal Roumi, qui va beaucoup chanter des textes. Elle a chanté des textes de Mahmoud Darwish, donc qui est un grand poète palestinien.
Nizar Abani aussi, surtout.
Ouais, c'est Kalimet. Ouais, Kalimet, son premier succès, vrai réel. Après, bon, Majdaroum, elle vient d'une famille de musiciens très, très, très installés. Père découvre Fayrouz à la radio, était directeur de la radio libanaise, qui est avant, parce que son père est palestinien. Ce qu'on oublie souvent, c'était qu'il était directeur de la radio à Jérusalem avant 48 et qu'après la Nakba, il se retrouve au Liban. Et donc, il avait géré ce qu'on appelait la radio du Proche-Orient, en fait, la radio du mandat britannique au Proche-Orient. Et il fait partie des personnes, du point de vue libano-syrien, mais même en fait, en règle générale, proche-orientale, qui ont apporté une certaine modernité dans les musiques, puisqu'il travaillait dans le domaine de la radio avec ses propres contraintes, et notamment des contraintes auxquelles on ne pense pas trop, mais par exemple, il faut mettre de la pub. Donc, quand il faut mettre de la pub, il faut faire plus court. En termes de chansons. Donc, on ne diffuse pas ce qu'on diffuse, ce qu'on fait en live, quoi. Donc, c'est déjà l'invention, le début des formats courts. Parce que l'histoire du format court, en fait, en musique arabe, est très liée au médium qui diffuse, en fait. On ne peut pas diffuser, effectivement, les chansons dont on parle, notamment qui sont issues de. Qui sont basées sur des poèmes assez longs. On ne peut pas les diffuser sur le format vinyle de façon. En entier, en fait. Donc, on sélectionne une partie. Et pareil, à la radio, on fait la même chose. Donc, quand on crée de la musique, on s'adapte. Enfin, parenthèse, mais en tout cas, Majda Roumi vient de ce milieu-là, d'un père très, très, d'une famille connue. Et elle, quand elle débute, je pense qu'elle commence à chanter très jeune, mais ce qui va être déterminant dans sa carrière, c'est effectivement cette collaboration avec Nizar Qabbani, donc un très, très grand poète syrien, mais qui est aussi un des plus grands poètes arabes contemporains du XXe siècle. De la deuxième partie du XXe siècle, du XXe siècle en général. Et lui, là, il a un rapport intéressant, en fait, dans son. Mais comme d'autres, avant lui, comme je pense à des Bayram Tounsi, qui est un grand parolier, poète et parolier égyptien. Donc, c'est le rapport de. Pour faire connaître son poème aussi, pour faire connaître son travail, c'est la collaboration artistique. Et il écrit pour Majd al-Roum Kalimet, qui va être son premier énorme succès, et qui est encore aujourd'hui, je pense, son plus grand succès de carrière. Et ça repose effectivement sur le fait que, déjà, c'est plutôt classisant. Même si quand on écoute, qu'on prête oreille aux instruments, on se rend bien compte qu'en fait, on n'est pas sur un orchestre traditionnel arabe. Enfin, je veux dire, il n'y a pas que des instruments traditionnels arabes dans l'instrumentalisation. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle fait le choix de chanter un poème, donc en langue classique, en arabe fosha, et que c'est un immense succès. Donc, ce lien-là s'inscrit dans ce qui s'est produit avant, c'est-à-dire qu'il y avait ces collaborations artistiques avec des poètes actuels. Je pense parler de Bayram Tounsi, parce que c'est un des plus connus, qui a écrit pour Oum Kulthoum, etc. Mais aussi, pour le cas de l'époque des années 40, 50 et 60, des poètes qui sont morts il y a bien longtemps, c'est-à-dire des socles de la littérature arabe. Je pense à Oum Kulthoum qui a souvent fait ces choix-là. Et voilà, donc ça fait partie un peu de la tradition musicale. Et certaines des chanteuses des années 80 continuent en fait à perpétuer cette tradition.
Mais ça, c'est quelque chose que je trouve vraiment hyper beau dans l'idée de la transmission en fait, dans l'idée de comment est-ce qu'on va faire circuler ce modèle d'artiste dans le temps, et en suivant et en s'inscrivant dans cette tradition qui, là par exemple, c'est de composer et de chanter sur des textes qui pour certains sont mythiques. Il y a pas mal de cas de passation quand même, et je pense que c'est pour ça aussi que au-delà de la question de est-ce qu'il y a vraiment des héritières, parce que je pense que c'est évident que oui, c'est comment en fait elles parviennent à tout de même, je pense qu'on va en venir là très vite, c'est comment dans une industrie musicale où justement le format se raccourcit, certaines de ces interprètes parviennent à s'imposer avec quand même des morceaux de environ 12-15 minutes. Mayed al-Hennaoui, ça a très très bien marché, sa musique marche très bien, mais typiquement elle fait des morceaux de 25 minutes quoi. Donc elle est dans ce truc de, même si elle émerge à partir des années 80, peut-être un peu fin années 70, elle parvient quand même à s'imposer avec ce format long. On n'est plus sur du 1 heure évidemment, mais on est quand même des morceaux de 25 minutes. C'est pas le truc le plus accessible non plus quoi. Mayed al-Hennaoui, ça fait partie vraiment des femmes qui je trouve est le plus intéressante dans ce truc de diva là, de notre ère.
Ouais, je suis d'accord, et je pense que ce qui, même si là l'émission est consacrée aux femmes, ce qui se joue dans les années 80 et 90 aussi, c'est qu'il y a aussi des hommes qui restent sur des formats assez longs. Kavim Seher par exemple, le chanteur irakien. Donc en fait, il y a quand même encore une acceptation globale d'une chanson qui va durer 12 minutes, 15 minutes. Et c'est souvent effectivement des chansons, pas toujours, mais c'est quand même souvent des chansons qui reposent soit sur un vrai poème, soit sur des paroles écrites avec une espèce de volonté de se rapprocher du format poétique, quoi. Ce qui change, en fait, avec les années 90 et les années 2000, c'est que ce type d'interprétations sont cantonnées au domaine du live, quand elles existent. Ouais. Elles sont cantonnées au domaine du concert, là où on pouvait faire un enregistrement sonore en studio et un clip même, basé sur des chansons assez longues et basé sur des chansons plutôt classisantes. Moi, le bouleversement, je le vois vraiment mi-90, où d'un coup, ce format-là va plutôt effectivement être dans le live et plus finalement être diffusable en fait. Diffusable à la télé, diffusable à la radio, diffusable en format en matériel. Enfin, matériel quoi que si, il y avait des albums quand même qui se vendaient et tout, mais. Et ce qui est intéressant, et ça, on peut parler des femmes, mais si je reprends un exemple, j'avoue, ça c'est un exemple masculin, mais pour moi il est assez parlant du fait que ces formats-là sont moins admis, c'est Kavim Seher. Dans les années 2000, il arrête concrètement de faire des chansons qu'il a toujours fait, en fait, enfin, la manière dont il a toujours chanté. Et je pense que c'est parce que, d'un point de vue médiatique, de l'industrie du disque dans sa diffusion, c'est devenu compliqué de les faire passer.
Ouais, à partir des années 2000, ouais, pour le coup, c'est vraiment un renversement qui est radical. Et on le voit justement par Ossol, qui a commencé avec deux albums de Torb avec des formats plutôt longs, donc entre 10 et 15 minutes. Samira Saïd aussi. Qui est une chanteuse marocaine, mais qui a chanté en dialecte égyptien.
Elle a fait pas toute sa carrière. Elle avait une carrière au Maroc. Elle se fait repérer quand même. Puis elle a une volonté parce que voilà, le Caire, c'est le Hollywood des Arabes. Donc en fait, quand tu veux devenir une star internationale et dépasser ses frontières de son propre pays ou du pays voisin, il faut aller au Caire généralement. En tout cas, il fallait aller au Caire. Ça a un petit peu changé désormais. C'est plutôt les Émirats Arabes Unis. Qui ont des espaces comme Dubaï qui ont plutôt maintenant ce rôle-là, cette place-là en fait dans l'industrie. Mais l'Égypte était pour les carrières internationales était un passage obligé. Samira Saïd avait sa carrière au Maroc, elle va en Égypte, elle collabore avec Badr Hamdi en fait,
ouais.
Et dont elle a été la je sais pas combien tième épouse.
Je ne savais pas.
Oui. Et sachant qu'il avait été marié aussi avec la très grande chanteuse algérienne Warda.
Bah Warda, moi je me suis arrêtée là, je me suis dit c'est bon, c'est le seul.
Non. Oui, ils se sont mariés, enfin, je suis sûre et certaine de ce que je dis. En tout cas, elle collabore avec lui. Et oui, elle a commencé sur un style de balir en plus, hein, un style classisant égyptien, avec ses apports de nouveautés, comme balir, c'est quelqu'un qui avait introduit les accordéons, d'autres types d'instruments qui n'étaient pas forcément dans l'orchestre classique.
Mayed El Hanaoui aussi, elle a commencé avec Balir Hamdi, je crois.
Ouais, non, mais lui, il était très... non, il a beaucoup bossé avec des hommes aussi, mais c'est vrai qu'il avait vraiment... ça a été un faiseur de carrière. Bon, pas que pour des femmes, mais il a beaucoup aussi produit, composé pour des femmes. Et puis, un moment aussi, c'est parce que Balir, c'est lui qui tient le game, en fait. Ouais. C'est lui qui tient, et notamment dans les années 70 et 80, c'est Balir qui fait la pluie et le beau temps de ce qui est de la bonne musique égyptienne. Donc, et c'est pour ça qu'on entend que son style, il est assez reconnaissable. Hein. Il utilise, par exemple, l'org, qui est un... proche d'un synthétiseur, le clavier le synthé quoi, mais qui a un modèle donc qui était utilisé, l'orgue, c'est Balir qui en fait un élément important. Bon, l'accordéon c'était déjà le cas, il l'introduit avec Abdel Halim Hafez par exemple. Et en fait, enfin moi je pense, enfin sans vouloir me vanter, je sais reconnaître Balir quand sans même être sûr que c'est lui, parce que la façon de composer, il a sa signature. Ah oui, et en fait, c'est lui qui signe. À part Mejda Roumi, je ne pense pas qu'il ait bossé avec elle, mais je pense qu'il a bossé. Enfin, en tout cas, il a bien marqué de son empreinte les années 80. Je ne sais plus pourquoi je disais ça, mais en tout cas, je ne sais plus c'était quoi la base de...
J'ai perdu le fil également, mais je vois aussi dans la continuité des rapports poésie, musicienne, chanteuse.
En tout cas, oui, les formats long, changent.
Ouais.
Mais, et le format long... Le format long, en tout cas, qui rendait possible l'usage de la poésie classique,
oui.
Ça devient compliqué. C'est un peu plus facile avec la poésie contemporaine, parce que c'est plus...
ça peut accessible.
Être... Ou plus beau, déjà. Déjà, d'un point de vue de la langue, c'est plus compréhensible.
Oui.
En Mahmoud Darwish, c'est plus compréhensible que Abou Firas Hamdani, je sais pas. Enfin, je prends n'importe quel poète classique qui aurait pu être mis en musique. C'est pas le même niveau de langue, on va dire. Enfin, c'est pas que c'est pas le même niveau de langue, c'est que c'est de la poésie médiévale et qu'on a un poète qui a écrit en XXe siècle. Donc, forcément, c'est plus simple à comprendre.
Ouais.
Ça serait pareil pour la poésie française si on compare un truc médiéval à un truc. Et je pense que c'est aussi le fait que les poèmes sont pour certains plus courts. En tout cas, je vois que Mahmoud Darwish, si on prend cet exemple, souvent ce qui a été mis en musique de lui, c'est vraiment les poésies les plus courtes aussi. Hein.
Ouais, parce qu'il a écrit beaucoup de... il a joué un rôle important après. Bon, on va pas rentrer dans les...
Il peut y avoir des poésies très très longues.
Ouais.
Mais c'est jamais ces poésies-là qui ont été mises en musique. Mmh. Et je pense que c'est aussi une facilité de... Bon, ça rentre aussi dans le format. Hein. Pareil pour Nizar. Ben, il a eu des poèmes très très longs. Mais généralement, c'est pas ceux qui sont mis en musique. Et puis par ailleurs, comme lui, il était aussi parolier,
Il faisait bien en sorte que ça rentre aussi dans le
ça
format.
Ok, ouais. Oh, ouais, j'entends. Mais je pense que la passation, du coup, quand elle se fait plus forcément par des collaborations directes entre poètes et musiciens, elle se fait beaucoup avec les reprises. Ça, on le voit par exemple. Yawed Yat Hill, qu'on a écouté de Sohaed Hosni, j'ai vu que Nancy Ragom, elle l'avait repris dans un de ses premiers albums. Nancy Ragom, qui, je répète, n'est pas une diva, je pense clairement, mais vraiment une vedette, grosse vedette de la pop. On a Shirin qui a repris des morceaux de Shadia. Toutes nos divas contemporaines, en vrai, elles reprennent des classiques d'Omo Kalsoum. Autant Samir Saïd que Hossol, on retrouve ces chansons hyper facilement sur YouTube. Et un des textes mythiques qui j'ai l'impression, en fait, c'est pas que des reprises, c'est vraiment, je trouve, des hommages qui sont faits aux prédécesseurs, en fait, aux prédécesseuses, je sais même pas si ça se dit, mais un texte qui a beaucoup été repris pour le coup, c'est Settel Habaib, donc composé par Mohamed Abdel Wahab, qui est un grand musicien, compositeur, il est égyptien.
Ouais, égyptien. Et il a été aussi, fut un temps, chanteur et acteur, même si c'est vrai qu'il est très connu pour être un compositeur avant tout. Et d'ailleurs, c'est un des premiers qui, dans la musique égyptienne, chante des poèmes.
Ah, je sais. C'est bon savoir. Et c'est la première à l'avoir chanté, après lui, c'est Faïza Ahmed. Et après, dans notre époque actuelle, ça a été repris par Shirin Abdel Wahab, Mayed El Hanaoui, Nancy Ragom à nouveau. Et justement, tu parlais de Kodem El Seher. Ils l'ont repris ensemble avec Mayed El Hanaoui. Et c'est une reprise que j'aime beaucoup.
Donc peut-être que tu... Peut... Aussi, moi, je pense qu'elle a été vachement reprise. Ouais. Il y a d'autres chansons qui ont été vachement reprises, mais celle-ci... Comme elle parle de la mère, en fait, ouais. En fait, c'est une chanson pour une maman. C'est vrai qu'en fait, en plus, enfin, je sais pas pour toi, mais on nous la matraque à toutes les fêtes des mères.
Ah ouais.
Ah oui, donc quand tu ouvres n'importe quelle chaîne télé arabe, la fête des mères dans les pays arabes n'étant pas à la même date que la fête des mères en France. Bah, c'est clairement le truc de des publicités, des clips. Et enfin, c'est normal, en fait. C'est une des chansons les plus connues qui manifeste l'amour d'un enfant pour sa mère. Et j'ai l'impression que c'est aussi une des raisons pour laquelle elle est aussi reprise par les artistes. Pas seulement parce qu'elle est surdiffusée à ce moment-là, mais parce que c'est quand même la chanson qui évoque la fête des mères et la maman, quoi.
Ouais, non, j'entends. Je sais pas, moi, j'avais un rapport assez très personnel à cette chanson-là et j'avais pas du tout fait le lien avec le
Non, mais après, ça n'enlève rien au fait qu'elle soit excellente, en fait, que ce soit une très belle chanson. Pour moi, c'est justement comment une très belle chanson sur un sujet très universel, en tout cas, tout du moins très partagé par beaucoup de monde, peut être aussi dans le temps réutilisé, utilisé, partagé. Enfin voilà, pour moi, je pense que c'est une des chansons qui est le plus partagée par des fils WhatsApp au moment de la fête des mères en Égypte. Enfin, je pense que les gens envoient cette chanson à leur mère.
J'ai littéralement envoyé à ma tante pour l'anniversaire de la mort de ma grand-mère. J'étais en mode, voilà, on écoute ça aujourd'hui.
Non, mais je pense qu'il y a vraiment un truc un peu de l'ordre du rituel. Ouais. Et c'est aussi la force des grandes chansons populaires, c'est à quel point elles s'insèrent dans la vie des gens. Et je pense que pour des chanteurs, c'est aussi l'occasion de montrer à la fois de faire un truc qui plaît à coup sûr.
Ouais, c'est vrai.
D'une certaine manière.
Ouais. Mais je pense qu'on peut écouter la reprise parce que je l'aime beaucoup de Mayed El Hanaoui et Kazem Essay.
يا أغلى من روحي ودمي يا حنينة وكل بطيبة يا ربي خليك يا أمي ست الحبايب يا حبيبي يا أغلى من روحي ودمي ست الحبايب
Yes.
زمان
زمان سهرتي وتعبتي وشلتي من عمري ليالي ولسه برضو دلوقتي بتحملي الهم ببالي
زمان تسهر وتبعتي تفكري أنا مو تسهري وتبعتي تفكري وتصحي من الأذان وتيجي تشعري يا رب خليكي يا
d'écouter donc la reprise de cette El Habaib qui est une chanson de Mohamed Abdel Wahab mais qui a été popularisée par la version de Faiza Ahmed, reprise donc par Mayad El Hennaoui qui est une grande chanteuse syrienne contemporaine et Kazem El Seher, pareil un grand chanteur arabe contemporain. Et donc on vient d'évoquer quand même le format musical qui se transforme beaucoup, enfin qui se raccourcit en fait au fil des années, depuis les années, on va dire, 70-80. Et en fait, ça, on peut totalement faire le lien aussi, après, avec petit à petit, je ne sais pas si je dirais disparition, mais je n'ai pas d'autres synonymes un peu plus soft en tête, des musiques longues, des morceaux longs, et des genres traditionnels arabes, dont certains qu'on a évoqués plus tôt, dans la production artistique. Donc avec en fait la pop qui va très vite dans les années 2000 prendre le dessus, avec des vedettes pour le coup, vraiment des icônes de la pop qui vont émerger, mais on n'est plus du tout dans cette culture des morceaux longs, des textes longs, de l'improvisation, etc. On n'est plus dans la culture du live comme tu le disais très bien tout à l'heure. Et on a des artistes qui vont commencer par des albums de musique traditionnelle arabe, donc Samira Saïd, on l'a évoqué plus tôt, mais qui, vraiment, à partir des années 2000, ne publieront que de la pop. Et depuis les 10 dernières années, on est dans une pop vraiment mainstream, très influencée par d'autres genres occidentaux. Et pour beaucoup de ces artistes, on perd en fait totalement les sonorités qui leur permettaient de s'inscrire dans une certaine lignée artistique.
Ouais, totalement. Moi, je pense que ça a commencé dès les années 90. Sauf que peut-être que la production pop des années 90, mais même sûrement, c'est sûr, la production pop des années 90 était déjà plus diversifiée que celle qu'on connaît aujourd'hui. Ouais. C'est-à-dire qu'il y avait différentes influences, ça s'entendait. Voilà, il y avait ceux qui pouvaient prendre des tropes, on va dire comme ça, des ornements de la musique arabe classique pour habiller un truc vachement pop. D'autres, on va avoir des influences très flamenco, par exemple. Moi, je pense à Amr Diab, évidemment. Ouais. Habibi Yanour El Aïn, j'avoue, c'est un homme, mais c'est lui qui ramène ce truc très... où je pense que le succès de ce titre-là a influencé les productions, et notamment les productions des femmes, sur la question de comment on s'approprie des ornements plutôt de musique espagnole.
Ouais.
Ou espagnolisante. Donc en fait, la pop, elle arrive quand même dans les années 90 pour moi, vraiment à s'imposer, même si effectivement il y avait encore des artistes, Majd al-Rhoum et d'autres, qui continuent dans un style plus classisant. Pour moi, le renversement, c'est l'arrivée de Nancy Ajram en fait, au début des années 2000, dans le sens renversement, dans le sens où là on entre dans une nouvelle ère en 2001, si je ne me trompe pas, c'est Hasmak E. Alors elle avait déjà eu des albums avant, plutôt connus au Liban,
ouais.
Et même pas très très connus en réalité, elle devait être un peu connue de la scène libanaise locale, on va dire. Mais Hasmak E, qui est chantée d'ailleurs en égyptien, hein, qui chante en arabe égyptien et pas en arabe libanais.
C'est un banger, c'est son premier hit.
C'est même le premier gros hit pour moi des années 2000 dans la musique arabe. C'est qu'on arrive à un phénomène colossal en termes de l'effet produit et de l'écoute des ventes de disques, etc., etc. De la diffusion du clip, qui est d'ailleurs s'inscrit dans la nouvelle ère pop, en fait, le clip.
Ouais.
Que Nancy Ajram propose, c'est un clip très filmique en fait, très scénarisé, qui ressemble beaucoup au clip effectivement qu'on retrouve en Europe ou aux États-Unis. Elle est hyper sexy, enfin hyper sexy non en fait. En réalité, tu montrerais ça à un Français, il trouverait pas ça hyper sexy.
Mais pour les
dans un contexte arabe, ouais. On est sur un truc. Ah ouais, d'accord. Et elle danse, etc. Elle est dans un café d'ailleurs pour hommes, si je me souviens bien, c'est ça le clip.
Bah, il y a pas mal de ces clips où elle est dans des cafés pour hommes. Je sais que
oui, bah, c'est du coup elle joue le truc de la séduction. Oui, elle joue le truc de la séduction masculine dans ces clips. Et cette chanson est un phénomène vraiment. Et elle instaure un nouveau truc de la Lolita. Mm-hmm. On sait qu'elle s'inscrit dans ce qui a pu se faire avant, mais là elle inscrit vraiment la Lolita comme personnage. Pas juste un personnage, on va dire, de pop culture dans les films, etc., mais comme chanteuse. D'un coup, et c'est pas étonnant en fait, on est aussi d'un point de vue mondial, il faut se rappeler qu'il y a Britney Spears qui est arrivée en fait. Et Britney Spears, elle est pas, c'est pas juste en Europe et aux États-Unis qu'elle a eu du succès, je veux dire, dans les pays arabes, Britney Spears était connue. Donc on a d'autres modèles de musique qui influencent la musique, la pop musique arabe. Donc pour moi, ça c'est le moment où on passe vraiment dans des formats très inspirés effectivement de musique plutôt de genres musicaux. Pop américain d'ailleurs, hein. C'est d'ailleurs vraiment ça le et c'est parce que aussi ça c'est ce qu'on voit, le contexte de production, c'est qu'on est aussi dans une production très rattachée à ces chaînes de clips de diffusion en continu de musique comme Massica,
ouais.
Qui existait déjà, mais aussi Rotana qui est une chaîne
un label
qui est devenu une chaîne, un label, plusieurs chaînes de musique, ils ont racheté tout le cinéma égyptien d'ailleurs au passage. Donc il y a une chaîne qui est consacrée aux musiques classiques, il y a la chaîne qui est consacrée aux clips en continu, il y a la chaîne qui est consacrée. Et Rotana, c'est un projet d'un prince saoudien de faire un truc à l'américaine comme MTV.
Mm-hmm.
Donc en fait, on passe aussi dans cette ère nouvelle, on va dire, et c'est pour ça que quand je dis que le centre de gravité de la production, elle se déplace du Caire. Vers les pays du Golfe, vers les Émirats Arabes Unis, où beaucoup maintenant de chanteurs vivent, beaucoup de chanteurs vivent et font les concerts.
Et performent. Surtout, ouais. La plupart des grands festivals, quand je regarde des performances là des deux dernières années, c'est tout le temps là-bas.
Et ben en fait, c'est parce qu'ils sont concentrés la production, mais même pas que musicale, cinématographique de la région, parce qu'ils ont les capitaux. c'est les financeurs. Donc il y a aussi ça qui se passe, et des chaînes comme Massika et Rotana qui ont accompagné des gens comme moi dans leur enfance, leur adolescence. C'est un peu comme les MCM et toutes les chaînes de clips qui ont continué en France, qui existaient, et où tout le monde regardait, les traces pour le rap, enfin tous les genres musicaux avaient sa chaîne. Bon, Internet change la donne, on n'a plus besoin de regarder des clips toute la journée pour entendre de la musique. Mais en tout cas, elles ont contribué à une forme d'uniformisation du modèle de la chanson qu'on produit, mais aussi du clip qu'on produit, parce qu'en fait... Moi, j'ai l'impression qu'ils font tous les mêmes clips aussi. Enfin,
ah ben oui.
Toutes les mêmes clips.
Alpha Wahbi, ouais, Ruby, qui s'inscrivent toutes dans ce truc très pop, très Lolita, comme
très
tu
sexy,
dis.
Ouais,
C'est une esthétique vraiment précise, et c'est un rapport aussi qui, je trouve, change la donne, là, pour le coup. Là, on est plutôt dans la musique, mais ça change la donne dans le regard qu'on... Comment dire ? Dans la manière dont on va écouter la chanteuse. Parce que là, on accorde justement une importance immense à son physique qui ne relève pas d'un truc glamour, d'une prestation en live, etc. Mais vraiment à une esthétique très précise qui joue sur une ambiguïté, je trouve. Ça, c'est une critique que moi, je porte, qui est personnelle. Sur une ambiguïté d'infantilisation, même, en fait. Tu vois, Ruby, en vrai, son hit, Les Baderikeda, je l'adore. Mais quand tu mates le clip et qu'elle est en mini-jupe avec ses détresses et tout, tu te dis... Ouais, bon, t'en fais un modèle de Lolita qui joue sur une sexualisation, une hyper-sexualisation, je trouve, qui, pour le coup, là, est vraiment nouvelle et peut être assez dérangeante. Enfin, moi, j'écoute le son avec plaisir, mais le clip, j'avoue que...
Bah, c'est clair qu'en fait, ces clips, ils ne s'adressent pas qu'à un public qui n'a pas de genre. Hein, je pense qu'il y a quand même l'idée du public masculin... quand ces clips sont réalisés. Et donc, c'est comme... moi, je me rappelle de l'hallucinant titre de Haifa Wahbi, qui est donc cette chanteuse libanaise qui est quand même réputée pour être la plus sulfureuse des sulfureuses, on va dire. Haifa, elle fait pousser le wawa. C'est une nounou ultra sexy d'un enfant ultra mignon. Donc fait un bisou au bobo, mais en fait t'as l'impression qu'il y a un double sens, enfin, ouais, et beaucoup de mecs l'ont interprété comme un double sens, mais ça c'est très inspiré des Américains, enfin j'ai envie de dire c'est aussi l'influence numéro un quand il y a notamment produit par le label qu'est Rotana, hein. Donc c'est aussi pour ça qu'en fait les chanteuses à voix, elles ont plus la même nécessité aussi de prouver qu'elles sont des chanteuses à voix, enfin je veux dire c'est pas, et c'est aussi quelque chose qu'il faut, enfin moi ce que je reproche c'est pas qu'en fait c'est que la pop ait pris le dessus, la pop elle change selon les époques. Il y a des gens qui trouvaient que les trucs des années 50-60 c'était de la pop en fait, par rapport à ce qui se faisait dans les années 20, donc en fait la question de la pop, qu'est-ce qui fait parce que pop c'est populaire, qu'est-ce qui est le truc le plus écouté, enfin voilà, ça c'est un débat qui parfois n'a pas de sens, dans le sens où on peut pas, voilà, les choses évoluent. Moi ce que je reproche c'est pas tant que ce nouveau genre voilà, et pris et l'espace de s'épanouir et ses auditeurs soient à la mode. C'est plutôt le fait que son omniprésence empêche d'autres formes de musicalité d'émerger. Et c'est autant pour ceux qui s'inscrivent dans un registre classique, on va dire classisant, qui s'inscrit dans la musique le tarab, le mawel, etc., 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 tous les genres musicaux qu'on connaît, classiques, que pour les gens qui font de la musique contemporaine, qui serait plutôt de l'ordre du... bah je sais pas, de l'électro par exemple,
ouais,
bah pareil, eux ils trouvent pas de difficile d'être diffusé en masse en fait,
ouais,
quand on diffuse que de la pop sucrée. Et c'est ça la grosse problématique de l'industrie du disque actuellement dans cette région, c'est plus à quel moment on laisse d'autres artistes
la place à autre chose, ouais.
Et de la diversité dans l'écoute, et c'est d'autant plus préoccupant que ça s'accompagne de moins d'espace culturel dans certains pays et dans certaines villes qui ont été quand même des bastions de cette vie culturelle. Je pense au Caire, évidemment, mais aussi à Beyrouth. Même si Beyrouth a une vie culturelle, mais bon, ça c'est aussi des considérations géopolitiques, politiques qui expliquent tout ça. Mais en fait, le fait qu'il y ait moins d'espace, que ce soit parce que les gens n'ont plus envie d'aller dans des concerts ou que ce soit parce qu'il y a une guerre, le résultat c'est qu'en fait, on a quand même...
en termes de production, l'accès à la production culturelle, parce que moi je pense pas qu'il y ait moins de production culturelle. C'est juste qu'on...
Non, il y en a un tas, justement. Ouais. Et t'as des artistes, je le découvre là en explorant des scènes musicales totalement autres, donc qui n'appartiennent pas du tout à la pop, qui appartiennent à la musique électronique, à la techno, enfin... vraiment des trucs radicalement différents, au rap, et enfin, il y a tellement, mais tellement d'artistes à foison dans tous les pays arabes, le Liban, l'Égypte, la Syrie, la Jordanie, mais vraiment, mais partout, et t'en as certains qui sont plus ou moins populaires. On a des chanteuses à voix en soi égyptiennes qui sont quand même assez populaires, surtout sur YouTube, Mariam Saleh, Dina El Wedidi, enfin... en Algérie, c'est pas du tout le même registre, mais c'est une grande musicienne, une grande chanteuse à voix. Soued Massi.
Ouais, mais Soued Massi, elle fait sa carrière en Europe. C'est en ça, fait, c'est ça le truc.
C'est que ça marche c'est, ou pas c'est et qu'en Dina fait, Didi, c'est pareil.
Ouais, et encore, que, ouais, Dina, qui a commencé à être connue bah, en 2011. Hein,
ouais.
je pense que c'est qui avait commencé avant, mais c'est vraiment 2011 et les révolutions qui font qu'elle peut faire plus de scènes, je pense, avoir aussi des opportunités de se produire à l'étranger. Mais c'est dramatique, en fait, qu'on en soit au point où les personnes ne peuvent pas vraiment faire carrière. Après, ça peut être un choix de ne pas faire carrière dans son pays. Hein. Enfin, je pense que c'est... Mais c'est, ça dit quelque chose de l'état.
Totalement.
De la culture, en fait, ou de l'accès à la culture. Et ça n'a pas toujours été le cas. Donc, c'est évidemment dû à des bouleversements politiques qui sont quand même... voilà, l'Afrique du Nord et le Proche-Orient sont quand même soumises à des décennies très, très compliquées depuis... Ça fait quand même longtemps qu'en fait, c'est des régions qui sont dans des situations politiques compliquées. Mais le fait que le seul qui est un espèce de centre névralgique de comme des Rotana, en fait, ça empêche l'émergence d'autres choses aussi, quoi.
Ouais, 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 totalement. Mais c'est une question pour le coup que je me pose. J'ai pas de réponse parce que c'est vraiment quelque chose que je médite. C'est en fait pour moi, le pays que je connais le mieux, c'est l'Égypte, parce que c'est là où j'ai passé le plus de temps. Donc, je base surtout mes propos sur ça. Je pense que c'est important de le préciser. Mais c'est qu'est-ce qui peut être dit, en fait, par qui et dans l'espace public. Et je trouve que ce phénomène de la pop qui domine, la pop sucrée, comme tu dis, je trouve que c'est une expression qui résume bien la chose. Enfin, ça participe, en fait, à ce truc de... On peut pas parler d'autre chose. Et en même temps, je lisais pas mal d'interviews de producteurs de rap, de producteurs de musique électronique, de collectifs de rap, etc., qui disaient que justement, eux, ils voulaient se faire leur place. C'était des artistes masculins, c'est important aussi. Parce que justement, ils en ont marre d'entendre que des musiques, des chansons de pop, des chansons d'amour à la radio et tout. Et en même temps, moi, je comprends tout à fait. Enfin, c'est un propos que je partage. Justement, je trouve ça assez désolant, le fait que pour percer, entre guillemets, il faut que tu t'inscrives dans ce registre musical-là. Mais en même temps, le truc, c'est que... bah, les artistes de rap qui là deviennent super populaires, Wags, Marwan Pablo, enfin tout un tas, c'est que des artistes masculins en fait. Donc c'est. En fait, on peut faire autre chose que la pop, mais c'est. Est-ce qu'on y a vraiment accès en tant que femme? Bah, je pense pas. Et donc, est-ce qu'on peut vraiment reprocher à ces vedettes de la pop de ne faire entre guillemets que de la pop, parce que dire que c'est assez dénigrant alors qu'en fait, on leur laisse pas la place de dire autre chose dans l'espace public, surtout justement lié à des contextes politiques très précis.
Bah totalement. Hein. Moi, je pense que de toute façon, dans cette industrie du disque compliquée et empêchée, on va dire, en tout cas d'empêcher dans le fait de pouvoir accéder à sa diversité de manière facilitée, je pense que celle qui paye le prix le plus lourd. C'est les femmes. Et pourtant, certains pourront argumenter qu'en fait, non, il y a beaucoup plus de pop stars que de... Mais comme tu le dis, en fait, c'est aussi dans quel rôle elles sont cantonnées en tant qu'artistes féminines. Et ça a toujours été assez continu, en fait, hein, de cantonner les femmes à chanter l'amour, la patrie et Dieu. Hein. Ça, c'est un peu les trois thématiques les plus... Enfin, parmi les plus présentes dans la musique arabe, égyptienne notamment. Ça ne veut pas dire que les mecs le faisaient pas, enfin, ne chantaient pas.
Ouais,
et puis même soir, avant, si on remonte plus dans le temps, les Abdel Halim, tout ça, c'est ça. Sauf que là, aujourd'hui, on se rend compte que dans les les styles musicaux qui arrivent à trouver leur place, notamment via Internet, parce qu'Internet va quand même changer la donne dans l'accès à d'autres types d'artistes que la pop rotana, quoi. Et bah, c'est des genres musicaux où il y a très peu de femmes, voire pas du tout de femmes. Moi, je pense aux maharaganet, parce que c'est quand même le style musical le plus écouté d'Égypte. L'Égypte étant le principal marché, parce que numériquement, il y a le plus de monde, en fait. Plus, même s'il y a cette espèce de déplacement de pouvoir vers le Golfe, en fait, l'Égypte, c'est pour ça qu'encore aujourd'hui, des artistes continuent à chanter en dialecte égyptien, même si maintenant on commence à remarquer qu'ils chantent en dialecte khaliji du Golfe. Mm. Et ça, c'est un signe de changement. Mais l'Égypte est fondamentale dans le succès. Et quand on regarde et c'est intéressant parce que le maharaganet, pour le coup, c'est pas forcément quelque chose qui se diffuse massivement ailleurs. C'est quand même un style principalement écouté par les Égyptiens. Bon, on connaît tous. Moi, je suis pas égyptienne, je suis tunisienne. Maharaganet, on connaît.
Bah, ça marche vraiment partout dans les pays arabes, quoi, pour le coup.
Bah, ça marche, mais ça marche pas de la même manière qu'en Égypte. Je veux dire, c'est pour le coup.
Parce qu'en Égypte, il y a un truc culturel où c'est quelque chose qui s'écoute beaucoup dans la rue. Vraiment, tu marches dans la rue, tu t'entends ça, ça s'accompagne de chorégraphies, ça s'écoute beaucoup dans des fêtes, des événements culturels particuliers, je pense que...
Oui, mais je pense quand même que c'est moins populaire que d'autres types de musique égyptienne qui ont été exportées.
Ouais, ok.
On est quand même sur moins de gens qui écoutent des maharaganet que des gens qui écoutaient qui écoutent Shirin, en fait. Enfin, on est quand même sur d'autres... Mais, pour autant, c'est le style le plus populaire en Égypte. Marché très important, public très important, et il n'y a pas de femmes.
Mais non, mais parce qu'il
n'y a aucune femme. Et parce qu'on va dire, oui, mais c'est une musique un peu virile et tout, mais en fait, il n'y a pas de.
C'est
que de toute façon, ça n'a pas été. Enfin, je ne sais pas si ça n'a pas été testé. Moi, je pense qu'il doit exister des chanteuses de maharaganet, mais qu'elles ne peuvent pas du tout avoir d'écho.
Mais bien sûr, parce qu'en vrai, c'est des paroles qui sont. Je pense que c'est important. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas le maharaganet, la traduction, ce serait festival. C'est un mélange de techno, de phrasé un peu similaire au rap, d'électro, etc. Et beaucoup de musique traditionnelle mélangée, arabe différente. Et. C'est des paroles très transgressives. Donc, ça parle de sexualité, ça parle de consommer des produits illicites, de la drogue, l'alcool, etc. Et Hassan Chakouch, qui est un des artistes de maharaganet les plus connus, il dit vraiment des trucs. Bon, enfin, ils ont été interdits de performer en live, justement, parce que c'est totalement en transgression avec les mœurs de l'Égypte. Mais jamais de la vie, justement, je me faisais la remarque, mais jamais de la vie, une femme, elle dit ce que Hassan Chakouch dit, et elle fait, je sais pas, 200 millions de vues, quoi. Une femme qui dit, ouais, je veux fumer un joint, ou ouais, je danse dans la rue, enfin, genre, ça me semble inimaginable, et c'est là où je trouve que on peut en avoir à la fois marre d'écouter que des chansons d'amour, que ce soit notamment ça qui soit diffusé dans les radios, à la télé, etc., et mis en avant. Mais en même temps, il y a ce truc de... J'arrive pas à m'imaginer une femme qui fait autre chose que de la pop avoir le même succès qu'une Shirin, par exemple. Acquérir un tel succès, ça me semble pas faisable, en fait, en dehors de la pop ou des genres traditionnels, tu vois. Enfin, les artistes que j'écoute, que là, je découvre dans la scène électronique, Dina Louidi dit, par exemple, là, elle a fait quelques sons où elle a un style assez rap. Mais Dina Louidi dit, elle a beaucoup travaillé aux États-Unis et tout, de ce que j'ai vu. Donc c'est ça, c'est ce que tu disais. Elle connaît un grand succès à l'étranger. Et c'est là tout le truc un peu...
Puis comme tu compares à quelqu'un comme Hassan Chakouch, on n'est pas sur le même nombre de vues, en fait. Dina Ouedidi, elle est extrêmement talentueuse, etc. Mais quand on regarde...
Oui, c'est 20 000 écoutes, quoi.
Elle est sur SoundCloud, les gens voilà, c'est déjà qui va écouter les sons sur ce SoundCloud et qui va écouter les sons. Et moi, j'adore les deux, en plus. Enfin, hein, c'est pas... Et pareil, en fait, de toute façon, la question notamment d'évoquer des choses de l'ordre de la consommation de drogue, la sexualité...
Ouais.
C'est pas pour les femmes, dans l'esprit, tu vois, je veux dire, je pense que... Et je pense que notamment des rappeuses l'ont évoqué, hein, dans Tunisie, dans d'autres pays, etc.
Ouais,
hein.
Parce que le rap, pour le coup, on est beaucoup...
Voilà, on est sur autre chose, mais évidemment, en fait, elles partent avec un grand handicap de... Ouais. Elles portent la pudeur, la bienséance. Donc un mec de maharaganet, et même un autre artiste, s'il avait envie, probablement pour d'autres raisons, ils le feront pas, mais ils ont le droit, en fait. Et même s'ils sont censurés, et même si en fait
ils sont quand même écoutés
et en fait, et ils vont être censurés par les instances officielles du pays, enfin du syndicat des musiciens d'Égypte, et c'est pas bien et nanani nanana, mais en fait ils vont quand même le faire. Une femme, elle fait ça, c'est la polémique directe.
Et surtout, elle va en taule, quoi.
Elle va en taule et c'est la polémique directe de... je veux dire, quelqu'un comme Céline qui a parlé de ce qu'elle a vécu dans son... avec son divorce et qui, elle a été traînée dans la boue pour avoir évoqué en fait des réalités du patriarcat, tout simplement.
Bah ça, pour ceux que ça intéresse, j'en ai parlé longuement dans l'épisode qui lui est consacré parce qu'on avait plus de temps. Enfin, je parle seule d'habitude. et la situation de Shrin, c'est assez révoltant. Beaucoup de médias français en ont parlé. La comparant à la Britney Spears arabe.
Ça n'a rien à voir, c'est hallucinant.
Mais bon, c'est juste une femme, entre guillemets, qui va bien, enfin pas bien. Et du coup, c'est Britney Spears. Mais bon. Mais je trouvais ça assez intéressant de conclure un peu l'épisode sur comment on passe de la transmission du modèle de diva à aujourd'hui, comment, au-delà d'avoir certes des divas contemporaines, en même temps, ça peut beaucoup enfermer les artistes. Mais après, ce n'est pas le choix des artistes. On l'a bien évoqué, je pense. On l'a bien expliqué. Mais comment voilà, ça peut être un frein à la création de d'autres types de musique. Et du coup, je crois que l'épisode arrive à sa fin. Donc, je vais remercier les personnes qui nous auront écoutés. J'espère que vous avez aimé autant que moi cet épisode qui est rendu possible par Hello à la réole et Nux au montage, que je remercie également. Et un grand merci à toi, Hajer, pour ta participation. C'était vraiment un honneur d'avoir cette discussion avec toi.
Merci pour l'invitation.
Je t'en prie. Vous pourrez retrouver cet épisode et les précédents sur le site de Radio Campus Paris et Spotify maintenant, ainsi que la playlist avec tous les morceaux qu'on a joués et d'autres complémentaires, parce qu'en vrai, on n'en a pas joué tant que ça. Donc, j'espère vous retrouver le mois prochain pour continuer l'exploration de ces créatrices. On va vous laisser avec Yamagnoun de Osolo parce que, comme Hajer vient très pertinemment de le dire, c'est l'entre-deux parfait entre un peu style tradi et la pop des années 2000.
السماء ساعة تحكي لي ولكن قلبي شاف مش انا ليلى ولا بنسمه هوا تميله يا مجنون مش انا ليلى ولا بنسمه هوا تميله عايزنا اقول بحبك ليه بحبك بس مش قايلة يا يا مجنون يا مجنون مش انا ليلى ولا بنسمه هوا تميله يا مجنون مش انا ليلى ولا بنسمه هوا تميله عايزنا اقول بحبك ليه بحبك بس مش قايله